BW. Vue d'Allemagne.
Elle aurait eu 100 ans le 9 mai 2021. Un compte Instagram redonne vie à la jeune résistante allemande Sophie Scholl, exécutée par les nazis en 1943 pour sa participation au groupe La Rose Blanche. Dans Vue d'Allemagne cette semaine, retour sur l'action de ce mouvement et sur son écho aujourd'hui. En deuxième partie de ce magazine, reportage en Afghanistan, où le retrait des forces internationales fait craindre une reprise du pouvoir par les talibans et un retour de lois archaïques envers les femmes et les jeunes filles. Vous écoutez Vue d'Allemagne, c'est Anne Le Touzé au micro, willkommen et bienvenue.
Überraschung! Herzlichen Glückwunsch zum 21.
Alles Gute!
En ce mois de mai 1942, Sophie Scholl vient d'arriver à Munich pour étudier la biologie et la philosophie. Pour ses 21 ans, le 9 mai, son frère Hans lui a organisé une fête surprise avec quelques amis étudiants. Un événement que Sophie partage en direct sur son compte Instagram avec une story tournée en mode selfie. Mais attendez un instant, Instagram, en 1942... Eh bien oui, ce sont les chaînes publiques allemandes SWR et BR qui ont reconstitué les 10 derniers mois de Sophie Scholl, jeune résistante allemande entrée dans l'histoire pour avoir fait partie du groupe Die Weiße Rose, en français La Rose Blanche. Deux semaines après son lancement, le compte Ich bin Sophie Scholl, je suis Sophie Scholl, va bientôt dépasser le million d'abonnés. Alors pourquoi cet engouement? Eh bien parce que Sophie Scholl, tout comme son frère Hans et le groupe de La Rose Blanche, sont des symboles en Allemagne. C'est ce que nous allons voir en compagnie de l'historien Guilhem Zumbaum Tomasi. Il dresse d'abord un portrait de la jeune Sophie Scholl.
Sophie Scholl, comme aussi ses frères et ses sœurs, est élevée dans une famille très protestante dans le sud de l'Allemagne. C'est une fille qui était très influencée par les choses qui sont passées à l'époque. Est-ce qu'elle avait déjà une conscience politique? Non. En tout cas pas avant qu'elle a commencé à rentrer dans la résistance. Elle était beaucoup plus intéressée par la musique, comme le swing, et par des soirées où elle avait rencontré des jeunes gens de son âge, ou même un peu plus âgés qu'elle.
Quand les nazis arrivent au pouvoir en 1933, Hans et Sophie Scholl ont respectivement 14 et 12 ans, et ils s'engagent avec passion dans les mouvements de jeunesse nazie, les jeunesses hitlériennes pour Hans et la Ligue des jeunes filles allemandes pour Sophie. Mais l'enthousiasme des débuts laisse bientôt la place à la désillusion.
Il faut savoir que les jeunes filles hitlériennes étaient obligées de participer une fois dans leur vie à une aide sociale. Là, elle a été appelée à un service dans un bled complètement perdu. Quand elle a vu que les gens étaient toujours en une mauvaise situation sociale, que les gens étaient forcés de venir travailler dans ce village où elle a fait son service, elle avait la peine.
So habe ich mir das nicht vorgestellt.
Je n'avais pas imaginé les choses comme ça. Agitation et propagande au lieu de la science. Personne n'ose protester, même quand les professeurs disent n'importe quoi. La race aryenne serait génétiquement supérieure aux autres. Les raisons sont tellement absurdes et inhumaines. Je peux à peine écouter. Les cheveux blonds reflètent le soleil, n'importe quoi. Ils disent aussi qu'un crâne long laisse plus de place au cerveau. Je n'ai pas le crâne long. Je ne connais personne qui en ait un. Ah si ? Les ânes.
Obwohl doch. Esel.
Extrait du compte Instagram de Sophie Scholl, le 11 mai 1942. Le régime nazi a déjà mis en pratique son idéologie raciste et cela n'est pas compatible avec les valeurs chrétiennes dans lesquelles Sophie a été élevée.
Mon père savait depuis le début qu'Hitler nous utilisait, nous manipulait et nous sacrifiait pour sa mégalomanie. À l'époque, nous étions jeunes, aveugles et naïfs. Mais la tragédie, c'est que la plupart sont maintenant adultes et toujours aussi bêtes.
Pour son frère Hans et ses camarades, ce sera l'enrôlement militaire qui va marquer une expérience décisive pour l'entrée en résistance et la fondation du mouvement de la Rose Blanche.
Quand les jeunes comme Hans Scholl et ses amis reviennent de leur engagement militaire, ils étaient obligés de les faire à côté de leurs études de médecine du front de l'Est, et après qu'ils ont vu ce qu'il se passe au front de l'Est avec les exécutions massif de la population civile et le comportement aussi de la Wehrmacht en Pologne et en Russie, c'est là où ils comprennent directement le caractère brutal du national-socialisme et que c'était pas une guerre ordinaire, c'était pas une guerre qu'on connaissait à travers le livre, que c'était vraiment une guerre raciale qui était menée à l'Est contre la population civile. Et c'est justement ces expériences-là et en plus l'ignorance voulue de la population allemande qui sont entrées en résistance.
J'y ai pensé toute la journée. Pourquoi le peuple allemand reste-t-il aussi apathique face à ces crimes hideux et inhumains? Presque personne n'y pense. Si on avait trouvé ça sur moi, je serais en prison. Les choses sont acceptées comme telles et enfermées, et encore une fois, le peuple allemand dort de son sommeil stupide et morne, donnant à ces criminels fascistes le courage et l'opportunité de continuer à sévir, et ils ne s'en privent pas. Voilà, il y a une résistance, ici, à Munich, dans mon université. Il faut que je montre ça à Hans.
Sophie soupçonne rapidement son frère Hans de faire partie de ce mouvement de résistance. Quelques mois plus tard, elle participera elle-même à la rédaction de tracts pour dénoncer le régime national-socialiste. Le groupe de la Rose Blanche, à l'origine de 6 tracts anti-régime, est composé d'une petite dizaine de membres, dont un professeur de l'université Kurt Huber.
Ils étaient très influencés par un professeur à Munich qui a démontré où mène la tyrannie, qu'est-ce qu'il faut faire contre la tyrannie. Et c'était à travers de leurs tracts qu'ils voulaient que la population allemande et les étudiants, surtout les étudiants allemands, prennent une certaine conscience du caractère de cette guerre et aussi du caractère du régime national-socialiste.
Même si les historiens n'ont pas pu déterminer la portée réelle des tracts de la Rose Blanche à l'époque, les membres du groupe sont entrés dans l'histoire très rapidement après la guerre. Il faut dire que les résistants allemands n'étaient pas nombreux.
On sait aujourd'hui, il y avait seulement 2% des Allemands qui étaient contre la dictature nazie. 90% des Allemands étaient pour et les restes sont des indifférents. Alors ceux qui ont fait la résistance, les 2%, c'est pas beaucoup. Et parmi ceux qui ont fait la résistance, il y avait côté politique des sociodémocrates comme des communistes. On ne pouvait pas à l'époque admettre côté occidental, côté la République fédérale allemande, qu'il y avait une résistance communiste. Côté l'Allemagne de l'Est, qui était bientôt la RDA, on ne pouvait pas dire qu'il y avait aussi une résistance social-démocrate, parce que dans leur idéologie, c'était uniquement les communistes qui étaient contre Hitler. Et la Rose Blanche est en quelque sorte un groupe où les deux Allemagnes pouvaient se retrouver, parce que c'était des jeunes étudiants qui faisaient la résistance, pas par une opinion politique, mais plutôt par une conscience philosophique et religieuse.
Dans les années 60, la sœur de Hans et Sophie Scholl, Ingrid Scholl-Eichinger, va fortement contribuer à la perpétuation de la mémoire du groupe de la Rose Blanche. Aujourd'hui, plus de 200 établissements, mais aussi des rues et des places portent le nom de Hans et Sophie Scholl. Et un prix littéraire récompense depuis 1980 des livres qui témoignent de l'indépendance intellectuelle et font la promotion de la liberté civique, du courage moral, intellectuel et esthétique. Aujourd'hui encore, Hans et Sophie Scholl ont une fonction de symbole, mais aussi de mise en garde, estime encore l'historien Guilhem Zumbaum-Tomasi.
Pour moi, c'est toujours le symbole pour les jeunes de dire, si vous remarquez qu'il y a n'importe quelle forme de politique contre les valeurs humaines, il ne faut pas trop attendre de choisir son camp. Et je crois que c'était aussi un peu ça ce qui s'est passé avec les Scholl. Au départ, ils n'ont pas trop compris les changements de valeurs qu'il va avoir avec le national-socialisme. Et ils ont compris quand ils étaient confrontés directement par leur expérience personnelle. Je crois que c'est ça, c'est qu'il faut aussi dire aujourd'hui de manifester contre le national-socialisme. Tout le monde peut le faire. Mais qu'est-ce qu'on fait avec le racisme ou avec l'antisémitisme quotidien? Il ne faut pas toujours attendre. Si on remarque autour de sa personne, il y a des gens qui n'acceptent pas les valeurs qui nous unissent, tout le monde. C'est là où il faut déjà commencer à résister.
L'historien est assez critique du projet Sophie Scholl sur Instagram, mais il y voit un intérêt pédagogique pour la jeunesse d'aujourd'hui.
Pour les jeunes, je pense que c'est bien de voir qu'une personne normale arrive aussi à travers ses réflexions d'aller jusqu'à ses extrêmes, de résister à une forme politique. Pour ça, je trouve bien. Mais est-ce que c'est un atout pour expliquer l'histoire? Là, j'ai des doutes.
Merci à Guilhem Sumbaum-Tomasi pour l'entretien au sujet de Sophie Scholl. Les extraits sonores que vous avez entendus sont à retrouver sur le compte Instagram Ich bin Sophie Scholl, tout attaché, dont vous trouverez un lien dans le texte de ce podcast. Et comme le swing était interdit du temps des nazis, c'est avec du swing que nous marquons une toute petite pause. Allemagne, deuxième partie, on change d'époque et de pays, mais le reportage que vous allez entendre n'est pas complètement étranger à l'histoire de Sophie Scholl. On y parle aussi de résistance, celle des femmes en particulier, contre les talibans qui menacent de reprendre le pouvoir en Afghanistan. Alors que les soldats américains et de l'OTAN, y compris les Allemands, s'apprêtent à quitter le territoire, les Afghans continuent de vivre sous la menace permanente des attentats. Des attentats perpétrés par les talibans et des membres de l'organisation EI. Ils ciblent principalement des femmes afghanes. Plusieurs femmes journalistes ont ainsi été tuées depuis le début de l'année. Et tout récemment, un attentat à l'entrée d'une école pour filles à Kaboul a fait plus de 90 morts et 150 blessés. Les talibans contrôlent toujours environ 40% du territoire afghan. Ils continuent d'assassiner et de menacer les femmes actives. C'est un reportage de Mortaza Beboudi à Kaboul.
Le nombre de morts augmente. Plus de 90 écolières tuées devant leur école ici à Kaboul le 8 mai dernier. Les filles et les femmes afghanes s'inquiètent de l'avenir du pays et du retour des talibans. Depuis début mai, plusieurs attentats ont touché la capitale afghane. Ici à l'hôpital de Dasht-e-Barchi, à l'ouest de Kaboul, Marzia, une des survivantes, raconte la situation.
On sortait de l'école après nos cours. Une bombe a explosé devant nous. Et tout le monde est tombé par terre. Je ne peux plus sentir mes pieds, les deux sont cassés. Les gens m'ont transféré à l'hôpital.
La mère de Marzia demande au gouvernement afghan de faire la paix et de conclure un cessez-le-feu avec les talibans.
La guerre a suffisamment duré, les gens souffrent, nous avons des morts et des blessés. Tous les jours, les innocents meurent, les pauvres meurent, jusqu'à quand? Il nous faut la paix.
La capitale afghane est en alerte maximale depuis le 1er mai, date du début du retrait des 2500 soldats américains. La déclaration d'un retrait que le président américain Joe Biden a promis d'achever d'ici au 11 septembre a aussi été suivie de plusieurs attaques talibans contre les forces de sécurité afghanes. L'Allemagne envisage aussi de retirer ses troupes engagées en Afghanistan dès le 4 juillet prochain. Anissa Shahid est une célèbre journaliste pour la chaîne afghane Tulu News. Depuis 5 ans, plus de 12 journalistes de cette chaîne ont été tués. Anissa Shahid a perdu plusieurs collègues et elle-même menacée.
Depuis 5 à 6 mois, je reçois indirectement des menaces de la part d'hommes qui travaillent dans ces organisations terroristes. Ils m'ont dit de faire attention, d'arrêter mon travail. Nous vivons dans une société traditionnelle et le travail des femmes n'est pas autorisé, surtout pour les femmes journalistes. En Afghanistan, les femmes se battent contre la discrimination, le patriarcat et les vieilles traditions.
Un combat dangereux. Certaines craignent même que les femmes continuent de souffrir après le retrait des forces américaines. Mais Anissa Shahid a un avis différent.
Il y a la leur pour les femmes afghanes, mais je sais très bien que les talibans ne peuvent plus revenir à l'époque de 1996. Ils ne peuvent plus nous dire de rester à la maison, ni fermer les écoles. Nous ne nous laisserons pas faire. C'est impossible. Aujourd'hui, les gens ont une éducation et comprennent mieux la situation. Ils ne peuvent pas répéter la loi qu'ils nous ont imposée pendant 5 ans de pouvoir.
Les talibans ont récemment publié un article sur le site web du groupe détaillant le système que celui-ci souhaite mettre en place pour l'avenir de l'Afghanistan. Les talibans veulent obliger les femmes à porter le hijab islamique lors de certaines activités. Il insiste aussi que les règles religieuses soient respectées en société. Un programme que certaines femmes contestent. Il ne faut pas perdre les progrès des dernières décennies, disent-elles. Murtaza Behboudi à Kaboul pour Deutsche Welle.
C'est déjà la fin de ce magazine. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. La semaine prochaine, vous retrouverez Hugo Flotatalon pour un nouveau numéro de Vue d'Allemagne. D'ici là, portez-vous bien. Tchuss !